Wagner, Chopin ou Liszt, dont la vie sentimentale aura été très exposée et aura fait l'objet de tant et tant d'échos. La vie sentimentale de Saint-Saëns, disons-le, reste assez discrète. Après avoir éprouvé un petit béguin pour Marie Rézet, future comtesse de Grandval, à qui il avait dédié plusieurs mélodies, il va s'éprendre d'Augusta Holmès, qui est sa cadette de 12 ans et qu'il va demander en mariage. Il peut la demander en mariage, ça ne veut pas dire qu'elle dise oui, puisqu'en l'occurrence, c'est un échec. Elle va lui préférer d'ailleurs plus tard la compagnie de Catulle Mendès. Je trouve que ça ne manque pas de sel. Quelle époque incroyable. Finalement, à 40 ans, il épouse Marie-Laure Truffaut. Elle a 21 ans de moins que lui. Il faut vous dire que Saint-Saëns n'a jamais connu son père. Hein. Il vit avec sa mère et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il vit avec sa mère une relation très forte. Il n'a jamais coupé le cordon ombilical. D'ailleurs, sans vergogne, il va imposer à sa jeune épouse la présence de Madame Saint-Saëns mère. Comportement de mégère de Madame Saint-Saëns qui ne veut pas partager son fils. Ça n'empêchera pas la belle-fille d'accoucher de deux garçons qui vont disparaître aussi rapidement qu'ils étaient venus au monde, les pauvres. L'aîné va échapper à la surveillance de sa mère et de sa grand-mère et tomber du deuxième étage. Je suis désolé de vous annoncer ça. Quant au plus jeune, il n'aura pas 7 mois lorsqu'il succombera à une pneumonie foudroyante. Et alors, plutôt que de réconforter Marie-Laure, Saint-Saëns, à ce moment-là, décide de se mettre un peu à l'écart. Il va se détourner de la vie parisienne pour s'étourdir dans le travail et les destinations lointaines. Au passage, il a perdu la foi et voue la religion aux gémonies. 3 ans après le double deuil, écrit Jacques Bonnord dans le Classica de janvier dernier, au cours d'un séjour à la Bourboule, Saint-Saëns quitte sa femme sans sommation et disparaît pendant plusieurs mois. On le croit mort, on le dit en asile d'aliénés. Il est en fait au Maroc sous un nom d'emprunt. Il ne divorcera pas, versera une pension à sa femme pour le restant de ses jours, mais ne la reverra plus jamais et vivra avec sa mère. Fut-il homosexuel, c'est possible, mais rien n'est prouvé. Ce qui est sûr, c'est qu'il souffrit de cet attachement maternel et lorsque sa mère mourut, il fut dévasté et multiplia encore les voyages pour se perdre. Éblouissant final du concerto pour violon et orchestre numéro 3 de Camille Saint-Saëns, c'est Frank-Peter Zimmermann qui était au violon, accompagné par l'Orchestre Philharmonique d'Oslo sous la direction de Maris Janssons.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Alors, même si pour nous, c'est un petit peu un paradoxe, étant donné tout ce que je vous ai dit, finalement, Saint-Saëns s'inscrit dans une grande tradition, mais à l'époque, il a été considéré comme appartenant au clan des modernes. D'abord, il est le chantre de Liszt et de Berlioz, qui sont des figures de proue de ce romantisme qui était à la pointe de son temps. Et puis, alors d'ailleurs, disons-le, hein, le premier Liszt s'est démené pour faire créer l'opéra Samson et Dalila à Weimar. Quant à Berlioz, il n'a pas manqué de saluer le grand talent de son cadet, tout en regrettant quand même ses facilités. Vous connaissez peut-être le compliment perfide de Berlioz à propos de Saint-Saëns. Il dit « Cet adolescent sait tout, mais il manque d'inexpérience. C'est très joliment dit. Un des invités réguliers des mercredis de Wagner, au du temps que celui-ci résidait à Paris, Saint-Saëns se passionne pour le drame wagnérien. C'est la grande affaire à la mode, qu'est-ce que vous voulez. Il devient un des plus fervents turiféraires de Wagner, avant que ne s'éloignent la France et la Prusse, si je puis dire. Et ce sont les sentiments patriotiques de Saint-Saëns qui, au moment de la défaite de Sedan, vont lui dicter, à l'égard du compositeur de Tristan et Isolde, une réserve d'autant plus emplie d'amertume que Wagner, de son côté, publie des écrits contre la France qui se révèlent injurieux. Il ne veut plus en entendre parler, Saint-Saëns. Autre rencontre décisive avec le grand pianiste russe Anton Rubinstein, qui lui passe commande d'un concerto, et c'est ainsi que va naître, en l'espace de 3 semaines, le concerto pour piano numéro 2 en sol mineur. C'est un concerto un peu particulier, un concerto qui commence comme du Bach et finit comme de l'Offenbach, lâchera caustique George Bernard Shaw, qui en vérité a assez bien résumé la chose. Les virtuoses de tous les pays ne vont pas tarder à inscrire ce concerto à leur répertoire parce qu'il est très bien écrit pour l'instrument et, disons-le, pour le soliste, il est extrêmement gratifiant. Pendant la Commune, Saint-Saëns va s'expatrier à Londres, Londres où son talent d'organiste va faire fureur. De 1871, date la création de la Société Nationale de Musique qu'il va fonder aux côtés de Romain Bucine, et la devise c'est Ars Gallica, j'ai envie de dire, tout est dit. C'est une espèce de patriotisme culturel qui va nous éclairer sur le genre de la musique de chambre particulièrement célébrée de Saint-Saëns, mais aussi la musique symphonique, la musique pour piano, autant de domaines où il ne va pas du tout sacrifié à l'inspiration wagnérienne qui, à l'époque, était en train d'étouffer l'opéra, il faut bien le dire. Il s'enferrera dans sa conviction patriotique Saint-Saëns et il y restera fidèle jusqu'à sa mort. Son style va atteindre, bien sûr, sa maturité maintenant, classicisme intransigeant pour la forme, l'orchestration, l'harmonie, mais classicisme néanmoins tempéré par une espèce d'effusion romantique qui rend tout cela vivant. « Pour moi, disait-il, l'art, c'est la forme. L'expression, la passion, voilà qui séduit avant tout l'amateur. Pour l'artiste, il en va autrement. L'artiste qui ne se sent pas pleinement satisfait par des lignes élégantes, des couleurs harmonieuses, une belle série d'accords, cet artiste-là ne comprend pas l'art. » Il n'avait pas forcément le sens de la nuance, Saint-Saëns. Il avait un immense talent qui lui permettait peut-être aussi de se montrer de temps en temps assez intransigeant. Alors, tandis qu'il publie plusieurs articles farouchement anti-wagnériens et donc anti-allemands, vous l'aurez compris, il mène néanmoins une tournée en Allemagne. On est là en 1886. C'est en arrivant à Vienne qu'il va composer pour se divertir une œuvre cocasse, le Carnaval des animaux. Une fois de plus, Liszt va lui témoigner son admiration pour cette œuvre, mais cette fantaisie zoologique en 14 tableaux, disons-le, en son temps, n'éveille pas beaucoup d'intérêt, même aucun. Il va falloir attendre 1922 pour que l'œuvre atteigne à la célébrité grâce à Gabriel Pierné qui va la révéler, littéralement. Célébrité qui, depuis, ne s'est jamais démentie, ai-je besoin de vous le dire. Autre œuvre marquante, la symphonie numéro 3 avec orgue, une symphonie qui est dédiée à Liszt, qui, une fois de plus, vous voyez, il reste très fidèle à ce grand compositeur. Lors de la première audition française de cette œuvre, par la Société des concerts du Conservatoire, c'est Gounod qui va déclarer, en montrant le compositeur, « Voilà le Beethoven français, vous imaginez ça ?» Saint-Saëns est un petit peu plus modeste, lui, il se contentera de dire « J'ai donné là tout ce que je pouvais donner. » Le final de cette symphonie numéro 3 avec orgue, vous l'avez entendu, l'orgue aux grandes orgues, en l'occurrence c'était Pierre Cochereau, accompagné par l'Orchestre Philharmonique de Berlin, sous la baguette de Herbert von Karajan.
Franck Ferrand, sur Radio Classique.
Saint-Saëns a beaucoup voyagé, probablement d'ailleurs plus voyagé qu'aucun des compositeurs de son temps. Et c'est un goût qui, avec l'âge, va s'accroître. Outre sa chère Algérie, où il passe beaucoup de temps, il va y séjourner à 9 reprises et c'est là-bas qu'il mourra. On le rencontre un peu partout, jusqu'au bout du monde, en Russie, en Asie du Sud-Est, aux États-Unis. Entre 1891 et 94, il rapporte de ses voyages des pièces évocatrices d'un orientalisme qui est un orientalisme un peu de convention, il faut bien le dire, mais qui ne manque pas de charme. Peu importe qu'Africa n'ait pas grand-chose d'africain ou que le concerto l'égyptien n'ait rien d'égyptien, on peut pas dire que Saint-Saëns s'encombre d'exactitudes locales, mais il crée librement. Il est attaché à faire rayonner la culture française qu'il sent menacée et va essayer de défendre cette culture française par le biais des valeurs nationales. Ça va le faire nouer des alliances avec le milieu musical britannique, c'est l'époque de l'entente cordiale, ça tombe bien, avec le milieu américain également pour aller donner là-bas des récitals, on le voit dans les grandes villes d'Amérique. Au fait, comment qualifier le jeu d'un des plus grands virtuoses de son temps? Parce qu'on n'en a pas parlé de ça. Il a été, dès l'enfance, formé par Camille-Marie Stamaty. Son style pianistique est assez étranger aux apports romantiques qui intègrent le poids des poignets et des avant-bras. Lui s'ancre plutôt dans l'ancienne tradition héritée de la technique du clavecin. Vous savez, ce qui fait que on voit très peu bouger ses mains. Ces 2 heures de gamme quotidienne pratiquées en lisant le journal posé sur le pupitre, vous imaginez ça, lui permettent de conserver un jeu agile, brillant, un jeu très français d'une certaine manière. Selon Alfred Cortot, ça donnait à son toucher, c'est Cortot qui parle, hein, ça donnait à son toucher un caractère de sécheresse qui lui paraissait synonyme de netteté et auquel il entendait convertir tous les interprètes, attribuant à ce mode d'exécution l'ensemble des vertus nécessaires à la traduction de toute musique.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Alors, est-ce que Camille Saint-Saëns n'a pas, sur le tard, été un petit peu victime quand même de sa longévité? Force est de reconnaître que les dernières années de sa vie le montrent de plus en plus décalé par rapport à son temps, même si on lui doit une des premières musiques d'accompagnement pour une scène de film, quand même, faut pas l'oublier, l'assassinat du duc de Guise en 1908. Il est d'une fidélité inébranlable, ce maître, à ses idéaux qui sont des idéaux de classicisme, d'équilibre. Il repousse par exemple, avec une espèce d'aversion, la bonne chanson de son ami Gabriel Fauré. Quand il entend pour la première fois ce cycle de mélodies un petit peu dissonante, aventureuse, il s'écrie « Fauré est devenu complètement fou ». Mais il rejette aussi le quintet avec piano de César Franck, le Péléas et Mélisande de Debussy, le Sacre du printemps de Stravinsky, c'est pas pour lui tout ça. Lorsque Ducasse va lui dédier sa sonate pour piano, il ne prend même pas la peine d'accuser réception de l'envoi, vous imaginez. Lui se passionne de plus en plus pour des musiques anciennes. Et d'ailleurs, il va diriger une édition critique du catalogue de Jean-Philippe Rameau. En fait, il va rester assez étranger à toutes ces ruptures qui marquent le début du XXe siècle. J'allais dire, c'est pour ça qu'on l'aime, mais ça n'engage que moi. Physiquement, celui qui avait été un jeune prodige assez mince, aux cheveux longs, est devenu maintenant un personnage un petit peu pittoresque. Les caricaturistes font leur miel de cette silhouette replète de ce 1m70. Hein. Il a un nez très fort et tombant, et puis une pilosité du visage très Troisième République. Tout ça fait de lui, en musique, l'équivalent de ce que Anatole France aura été en littérature. D'ailleurs, Anatole France paraissait dans le célèbre film documentaire de Sacha Guitry en 1915 qui s'appelle « Ceux de chez nous » et l'on y voit bien sûr aussi Camille Saint-Saëns. C'est merveilleux que Sacha Guitry nous ait immortalisé Camille Saint-Saëns dans la vie et le mouvement. On y voit en effet ce fringant vieillard battre la mesure avec la flexibilité d'un métronome à peu près. Ah, on est assez loin des gestes enveloppants d'un Karajan. Hein. Ce qu'il dirige pour Guitry, c'est une réduction pour piano du ballet de son opéra Henri VIII. J'ai pu prendre ce film, témoignera Guitry, qui constitue l'un de mes souvenirs les plus vivaces. Imaginez la chose, Cortot seul au piano, l'appareil et Camille Saint-Saëns, âgé de 80 ans, prodigieusement lucide, constamment de mauvaise humeur et dirigeant au son d'un piano tout un orchestre supposé, mais dont il était seul à percevoir les harmonies. Le final célébrissime du Carnaval des animaux, Louis Lortie et Hélène Mercier étaient au piano accompagnés par l'Orchestre Philharmonique de Bergen, en tout cas un certain nombre de ses membres, sous la direction de Némé Yervi.
Vous écoutez Radio Classique.
Aujourd'hui, Sylviane a le sentiment du devoir accompli. À 78 ans, elle vient de donner un coup de pouce financier à ses petits-enfants. Mais surtout, Sylviane a fait une donation à la Fondation Foch. Elle aide ainsi 300 médecins et chercheurs de l'hôpital Foch à combattre la maladie et soutient une médecine d'excellence au service de tous. Legs, donation, assurance vie, comme Sylviane, soutenez l'hôpital Foch. Appelez le 01 46 25 27 74 ou connectez-vous sur fondation-foch.com.
Vendre cet immeuble haussmannien pour payer les droits de succession, voilà ce que redoutaient Virginie et Sophie quand elles ont hérité de leur père. Heureusement, grâce au cabinet Bougardier, elles ont souscrit un prêt hypothécaire à long terme. Dans 15 ans, au moment de leur retraite, le prêt sera remboursé et elles percevront la totalité des loyers de l'immeuble. Comme pour Virginie et Sophie au cabinet Bougardier, nous aimons trouver la solution de financement à laquelle on ne pense pas toujours. Cabinet Bougardier, avenue de l'Opéra à Paris et sur bougardier.fr.
Un secret inavouable, une passion interdite, une farce endiablée. Dans Il Trittico, œuvre à trois brefs opéras, Puccini excelle aussi bien dans la comédie que dans le drame. Portés par la saisissante soprano Asmik Grigorian, ses airs, souvent entendus au cinéma, sont à découvrir à l'Opéra Bastille du 29 avril au 28 mai. Réservation sur opéradeparis.fr.
La saison 2025-2026 de la scène musicale vous attend. Concerts, ballets, musique de film, spectacles en famille, grands orchestres, laissez-vous envoûter par une programmation d'exception. Et vivez toutes les couleurs de la musique, du grand répertoire à la création, sur la grande scène et à l'auditorium. Réservez cette saison inoubliable sur lascenemusicale.com.
Peugeot. Vous êtes au volant et vous croisez la Peugeot 208. Vous pensez, pas mal. Et si je vous dis qu'elle est proposée en version électrique, hybride ou essence, et qu'elle est à partir de 170 euros par mois, et toujours jusqu'à 8 ans de garantie offerte, là, vous pensez que c'est vous qui devriez être à son volant.
LLD 49 mois, 40 000 km, premier loyer 2500 euros pour une 208 style essence neuve réservée aux particuliers jusqu'au 30 avril si acceptation crédit part. Garantie à l'URCAIR, conditions sur Peugeot.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Dans un instant, Tempo avec Pauline Lambert sur Radio Classique.
Votre nouveau poltron sofa est plus proche que vous ne le pensez.
Bien sûr, Bruno, c'est la collection Je Mérite. Tant de canapés à 799 euros seulement.
Mais ça se termine demain.
Vous avez plus de 300 magasins pour l'essayer. Avec en plus 30% sur les modèles de la collection, comme en exposition.
Poltron sofa, 30 ans de qualité.
Et voilà.
30 ans de qualité, vérifiez conditions en magasin.
14h30, 17h, Tempo avec Pauline Lambert. Sur Radio Classique.
Ravie de vous retrouver sur Radio Classique pour cette toute dernière émission de la semaine. Plus que quelques heures avant le week-end, peut-être aussi le début des vacances de printemps si vous avez la chance d'en prendre. Plus qu'une heure en tout cas avant votre tempo des auditeurs. Dernier appel donc pour choisir la musique de Wagner que vous préférez. Wagner, le géant de l'opéra allemand, mais pas seulement. Quelle œuvre voulez-vous écouter ? Faites-vous partie de ces aficionados qui ont fait le pèlerinage à Bayreuth ou qui rêvent de le faire un jour pour découvrir ce temple sacré imaginé par le maître lui-même. J'attends vos messages, nous attendons vos propositions avec Thomas Cligny pour changer en direct le programme de cette émission. Et même s'il fait beau sur toute la France, j'aperçois des nuages qui s'amoncellent à l'horizon, gros temps et mer agitée prévue à 16h30, avec des vents forcissant nord-nord-est et des vagues pouvant aller jusqu'à 3 mètres de haut. Soyez prudents pour la fantaisie aujourd'hui et cette tempête en mer qui s'annonce. Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Tempo. Nous ouvrons avec Mozart le Lumineux.
Thank you.
ouvrons cette toute dernière émission de la semaine avec un final, ce tempo allegretto dans les dernières notes du 17e concerto pour piano de Mozart. Il y avait là la pianiste américaine Claire Huangxi au piano, avec le bien nommé l'orchestre du Mozarteum de Salzbourg et avec Howard Griffith, album qui marque le début de la collaboration entre la pianiste américaine et le label Alpha. Mozart, vous le savez, a écrit 23 concertos pour piano. Beethoven, lui, en a écrit 5 seulement. Des concertos qui marquent véritablement l'évolution du genre et même sa transformation vers l'époque romantique. Alors le voici, Beethoven sur Radio Classique, mais cette fois-ci sa 8e symphonie. Je vous propose d'en écouter le premier mouvement. C'est un allegro vivace et con brio, et c'est le doyen de la direction d'orchestre qui nous l'interprète, Herbert Blomstedt.
Thank you.
Beethoven sur Radio Classique, le premier mouvement de sa 8e symphonie. Herbert Blomstedt, 97 ans cette année. Il continue encore à jouer et à diriger. C'est tout simplement exceptionnel. Herbert Blomstedt qui était ici à la tête du Gewandhaus de Leipzig. C'est avec le même orchestre que je vous propose de le retrouver. Le temps de vous révéler tout de même un peu de son secret de longévité. Comment fait-il Herbert Blomstedt pour être toujours en forme et continuer à diriger à 97 ans? Eh bien, d'après lui, son secret, c'est tout simplement l'amour de la musique. Dès que j'entends le son d'un orchestre, je suis transformée. Il n'y a plus de corps, plus d'âge. Seule la musique et la joie de la musique comptent. Alors le revoici, Herbert Blomstedt, dans ses quelques valses de Richard Strauss.
Thank you.
quelques valses tirées du Chevalier à la Rose, grand opéra de Richard Strauss, toujours le Gewandhaus de Leipzig, avec Herbert Blomstedt, chef à la longévité exceptionnelle, qui sera d'ailleurs en concert très prochainement. Notez les dates si jamais vous voulez le voir. Il sera de passage à la Philharmonie de Paris les 21 et 22 mai prochains pour diriger deux œuvres phares du répertoire, notamment Brahms avec l'Orchestre de Paris. Une pause, le flash de 15h et la suite de la musique avec Vivaldi, Herold et Schubert.
Attention, événement. Radio Classique vous attend pour son grand concert d'été. Un festival d'émotions avec Strauss, Mozart, Bizet, Verdi, Beethoven. Venez écouter le meilleur du classique avec la soprano Angélique Boutteville, la pianiste Chani Di Luca et l'Orchestre National d'Île-de-France, dirigé par Marc Leroy Calatayud. Le grand concert d'été de Radio Classique, animé par Jean-Michel Duez, les 20 et 21 juin au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Réservez dès maintenant au 01 49 52 50 50 ou sur théâtrechampselysees.fr.
Viager, viager. Oh allez, oui, c'est décidé, c'est oui. Oui au viager, mais avec Georges Mabille. La référence viager dans toute la France depuis 20 ans. Mon appartement, estimé à 500 000 euros, pourrait me rapporter un bouquet de 100 000 euros et une rente mensuelle à vie de 2 000 euros tout en restant chez moi. N'hésitez plus, appelez Georges Mabille Viager au 01 43 43 43 77. Dites oui à Georges Mabille Viager, oui à la vie.
Madame Figaro, spécial déco est en kiosque. On s'évade et on prend la direction de Minorque ou encore du Brésil pour des escapades dans des maisons de rêve. Partez à la rencontre des jeunes designers français qui comptent et toujours toutes les nouveautés et les tendances du moment. Madame Figaro spécial déco, en vente actuellement.
Vous êtes bien avec Radio Classique.
Et il sera très exactement 15h dans 2 secondes. L'heure du flash présenté sur Radio Classique par Marc Dédé. Bonjour Marc.
Mais bonjour Pauline, bonjour à tous. La Chine riposte une dernière fois aux États-Unis en annonçant une taxe à 125% sur les produits américains importés. Mais Pékin affirme qu'elle ignorera désormais toute nouvelle hausse des droits de douanes américains sur ses propres produits, désormais tout de même à 145%. Pékin parle d'une farce et appelle les Américains à assumer les turbulences économiques mondiales de cette guerre commerciale. Voilà qui inquiète notamment en Europe, où la Banque centrale se tient prête à intervenir si cette guerre commerciale venait à menacer la stabilité financière de la zone euro. C'est ce qu'indique aujourd'hui Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne. Et puis si la Chine reste durement frappée par ses droits de douanes américains pour les autres pays de la planète, Donald Trump a finalement choisi de les ramener à 10%, de quoi permettre des négociations, 10% pendant 90 jours. Le commissaire européen au commerce se rend d'ailleurs lundi à Washington pour rencontrer l'administration américaine. Et puis toujours à l'étranger, l'émissaire du président américain Donald Trump est arrivé à Moscou. Steve Witkoff doit s'entretenir aujourd'hui avec le président russe Vladimir Poutine. Les deux hommes évoqueront le règlement du conflit en Ukraine. C'est ce qu'indique le Kremlin, qui précise ne pas attendre de percée diplomatique. J'ajoute que les négociations sur le sujet de la paix en Ukraine piétinent. Et puis en France, le premier ministre François Bayrou affirme aujourd'hui qu'il n'est absolument pas intervenu dans l'affaire des violences physiques et sexuelles de l'établissement Notre-Dame de Bétarame, où ont été scolarisés plusieurs de ses enfants. Déclaration au lendemain de témoignages, de deux témoignages, celui d'un ancien gendarme et d'un ancien juge. Tous les deux laissent entendre le contraire lors de leur audition devant la commission d'enquête parlementaire sur les violences et le contrôle par l'État dans les établissements scolaires. Cette commission parlementaire qui doit entendre le chef du gouvernement le 14 mai prochain. Et puis les préfectures de Corse appellent aujourd'hui la population à déposer les armes. Elles annoncent une opération d'abandon simplifié d'armes dans l'île où le taux de détention est deux fois supérieur à la moyenne nationale. Le taux de détention d'armes, il atteint 350 armes pour 1000 habitants en 2022. Le CAC 40, il est en baisse en ce moment de 0,53% à 7087 points. 15h02 sur Radio Classique et vous retrouvez tout de suite Pauline Lambert.
Merci Marc, vous revenez-vous évidemment à 16h. Et tout de suite Antonio Vivaldi, son Gloria in Excelsis Deo. Le temps de faire un petit clin d'œil à Elodie Fondacci. Elle vous attend ce soir à Bordeaux si jamais vous êtes dans la région bordelaise pour un très beau spectacle autour de Mamerlois. Et puis elle est déjà là sur notre antenne.
Bonjour, c'est Elodie Fondacci. Que diriez-vous d'une nouvelle histoire pour les vacances ? Annabelle vivait dans un catalogue de jouets. Dans les pages roses, comme toutes les poupées. Grand Jim était aventurier conducteur de tractopelle. Dans les pages bleues, celles pour les garçons.
Découvrez Dinette dans le tractopelle, la nouvelle histoire en musique d'Elodie Fondacci. Un livre de Christos à retrouver aux éditions Talents Haut. Jusqu'à 17h, Tempo sur Radio Classique.
Gloria in Excelsis Deo, c'était le premier chœur de ce Gloria d'Antonio Vivaldi par Hervé Niquet et son concert spirituel. Hervé Niquet, vous le savez, qui fait partie de cette génération des pionniers de la musique baroque en France, mais il dirige aussi d'autres ensembles et des orchestres sur instruments modernes. Et il a enregistré il y a 15 ans maintenant, mais cela fait là aussi figure de pionnier, il a enregistré les concertos de Hérold, Louis-Ferdinand Hérold, compositeur français du début du 19e siècle, assez peu connu, il faut bien le dire. L'un de ses opéras reste un peu à l'affiche et ses concertos pour piano ont été complètement oubliés. Pourtant, ils sont très intéressants. Et bien le voilà, le piano de Jean-Frédéric Neuburger.